pour décrypter l'actualité sportive, l'analyser. Voilà. Au programme aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions, notamment des matchs d'hier entre Tottenham et Manchester City, et puis entre Liverpool et Porto. On va parler aussi de l'association France Football Détection avec son président et fondateur Loïc Caudron. On va parler aussi de, voilà, des matchs à venir en Ligue des Champions, notamment l'Ajax Juventus de Turin, Manchester United Barcelone. C'est parti pour Time Sport.
Time Sport.
Et pour nous accompagner aujourd'hui autour de la table, Nassim Bourras. Comment ça va, Nassim ?
Bonsoir à toi, bonsoir à tous.
Le fondateur, comme je le disais, est président de l'association France Football Détection, Loïc Caudron. Comment ça va, Loïc ?
Bonsoir, ça va, merci, et vous ?
Eh bien écoute, j'espère que les auditeurs qui nous écoutent, voilà, on va pouvoir leur donner un peu des infos, voilà, sur ce qui se passe en ce moment sur la planète football. Et puis notre Mamadou National, comment ça va, Mamadou ?
Ça va très bien, et toi, Guillaume ?
Eh ben écoute, au taquet.
T'es toujours aussi jeune.
Eh ben t'as vu, eh ben merci. Voilà, un petit compliment au passage. Eh ben, en tout cas, là, on va passer au ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et le ras-le-bol, c'est celui peut-être de Kyle Korver, voilà, le vétéran des Utah Jazz, voilà, qui dans les contributions, voilà, des joueurs de la NBA, voilà, publiées dans le Player Tribune, qui valent d'ailleurs le détour. Si on a une à choisir et à retenir, c'est celle de Kyle Korver, voilà, qui a livré son point de vue sur ce qu'il appelle le privilège blanc et le racisme ambiant dans la société américaine, jusqu'à l'examen de ses propres efforts. C'est pas la première fois, voilà, que évidemment un athlète, un sportif s'exprime sur le racisme dans le sport de manière générale. Et puis aux États-Unis, il a déclaré: quand la police brise la jambe de ton coéquipier, tu pourrais penser que ça va te réveiller. Quand il l'arrête dans une rue de New York, le met en cellule pour la nuit et le laisse avec une blessure qui va mettre fin à sa saison, tu pourrais penser que tu vas comprendre qu'il y a autre chose derrière. Une petite réaction par rapport à ces déclarations, Mamadou ?
Mais écoute, Guillaume, c'était une contribution très, 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 très intéressante. Je suis tombé dessus aussi, j'ai pu prendre les plus grosses feuilles. Et c'est rare, c'est une contribution rare parce que c'est l'angle de vue d'un joueur blanc qui effectivement donne son sentiment et la manière dont il emmène les choses, c'est qu'on s'aperçoit que le racisme est toujours prégnant aux États-Unis. Hein, c'est quelque chose qui est même sur un sport, et d'ailleurs il explique que sur ce sport qui est pratiquement joué à plus de 70% par des joueurs noirs, on pourrait penser que il n'y a pas de racisme. Il dit au contraire. Et ce qui est intéressant surtout là-dessus, parce que bon, c'est des problèmes de racisme, on en a parlé ici dans le foot, dans les stades et autres choses, c'est qu'il donne son point de vue mais d'un joueur blanc, et c'est rare. Parce que, et il le dit vraiment avec son cœur, parce que lui-même se met en porte-à-faux dans ce témoignage, parce qu'il nous explique d'habitude, il a une très bonne relation avec son coéquipier, c'est même quelqu'un de très proche, il discute de beaucoup de choses en dehors du basket, des choses liées à la société, et il s'est aperçu que quand c'est arrivé à son coéquipier, eh ben, il a eu un réflexe en se disant, Ah bah c'est normal, hein, grosso modo, qu'est-ce qu'il foutait en boîte à cette heure-là ? De toute manière, il était sur un back-to-back, alors entre deux matchs, et donc censé être au repos. Et tout de suite, sa réaction, c'est comme s'il y avait un préjugé, les préjugés qu'on a. Bah, s'il a pris des coups, c'est normal, parce qu'il est noir. Si il s'est trouvé à cette heure-là, qu'est-ce que ça fait ? Grosso modo, il a fait état des propres préjugés qu'il avait, lui, alors qu'il est très proche de ce joueur. Et c'est quand même assez rare d'avoir ce type de témoignage, et parce que lui-même se met en faute en disant quel est le regard que lui porte sur ses coéquipiers, et il une très belle autocritique, et c'est une manière aussi de couper les préjugés.
C'est, et puis quand mal. C'est quelqu'un de lambda, évidemment on fait pas forcément attention, et puis là comme c'est une figure du basket aux États-Unis, voilà, ça décrit quelque chose du racisme, comme il le dit, ambiant dans la société américaine. Nassim, un petit mot sur Kyle Korver et sa tribune.
Oui, la tribune de Kyle Korver est vraiment intéressante. Comme l'a dit Mamadou, c'est rare qu'un blanc témoigne de cette façon sur le racisme aux États-Unis, un racisme qui est malheureusement encore très présent. On le voit dans les faits divers assez souvent, malheureusement. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les sportifs américains, malheureusement étrangers, se mettent sur le devant de la scène pour expliquer leur vécu, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils expliquent leur vécu, qu'ils prennent des positions politiques. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit assez peu souvent en France et en Europe. C'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. Les footballeurs, les sportifs en général ont peur de se lancer dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie publique, exprimer leur avis. On l'a vu avec Lilian Thuram qui a pris position très tard une fois que sa position de footballeur était terminée. Voilà, j'aimerais voir des positions comme celle de Lilian Thuram, pas forcément qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est un autre débat, mais que des personnes comme lui se lancent dans le débat politique, dans le débat public, dans le débat social, sans forcément être dans un parti politique.
Oui, surtout pas.
Voilà, et l'être et lancer ces débats-là, tout en étant sportif ou en poste, je trouve que c'est intéressant, ça peut donner davantage de poids et ça peut même sensibiliser les enfants, les jeunes adultes. Un peu plus à, pas forcément à la politique, mais à la vie sociale et à s'entourer en fait de ce qui se passe auprès de nous.
Un petit mot rapidement, hein, on va demander à notre invité, voilà, Loïc Caudron, sur cette tribune et puis sur le racisme de manière générale dans le sport.
Ouais, donc je pense que la tribune qu'il a faite, je pense que c'est très bien et très intéressant, puisque aujourd'hui on demande beaucoup aux sportifs étrangers, en général noirs, donc de communiquer face aux actes racistes. Mais là, le fait que ce soit des personnes, donc entre guillemets blanches, qui en parlent, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, ça donne un poids supplémentaire, en fait, le fait que ce soit une personne blanche qui en parle, ça montre que tout le monde est concerné par ça et pas seulement les noirs ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde.
Et d'ailleurs, une info de ces derniers jours, c'est évidemment récemment visé par des cris racistes et lassé de par le manque de mesures fortes contre ce phénomène, le défenseur de Tottenham, Danny Rose, qui a hâte de raccrocher les crampons.
Il en a parlé.
Il a dit vendredi dernier qu'il envisagerait de prendre sa retraite sportive en raison du racisme dont il est victime dans le football et de la faiblesse, selon lui, des mesures prises pour lutter contre ce fléau. Donc finalement, voilà, on en parle dans le basket et puis voilà, c'est une tribune, comme tu dis, qui est assez originale, Mamadou, mais c'est aussi, il est aussi raccroché à l'actu.
Il est complètement raccroché à l'actu. Et puis, nous, ces dernières semaines, vous êtes bien témoins. On a pu parler, alors je ne vais pas tous les citer, entre le joueur de la Juve, c'est Moïse Kean qui en a pris aussi. Matuidi à son tour aussi. Enfin, on va pas tous les énumérer. Mais pour revenir à Kyle Korver, ce qui est intéressant, c'est qu'il. Et ce qui humanise son discours, c'est qu'il dit lui-même qu'il s'est senti très gêné. Et il a cherché pourquoi il était gêné. Parce que justement, il a dit, j'aurais pu très bien, par rapport à ma position de joueur blanc, moi je me mêle pas de ça, je reste de mon côté, j'ai mon coéquipier. En fait, passer à côté de tout ça, comme ça se fait, et là il a vraiment pris position. Et la position qu'il prend, c'est qu'à la fin, il explique qu'il aimerait que ces choses-là soient portées par tous les joueurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient asiatiques, enfin, quelle que soit leur origine, et qu'à un moment donné, on ne se cache pas derrière le fait que c'est pas ma communauté, ça ne me touche pas, donc forcément, bon, c'est mon coéquipier, il a un problème, mais il se met vraiment, moi, j'étais poignant, mais c'était émouvant la manière dont il parle, parce qu'il met lui-même, il se regarde dans le miroir, et dit pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai eu ce propre préjugé directement, alors que ce jour je le côtoie tous les jours, et finalement j'ai suivi comme un mouton, sans chercher vraiment à savoir ce qui se passait. C'est quand même assez rare de se mettre à nu comme ça, et c'est pas mal.
Si vous nous rejoignez sur BFM, on parle de, voilà, dans le ras-le-bol, on parle de racisme dans le basket et notamment de la tribune de Kyle Korver, voilà, le vétéran des Utah Jazz qui a livré son point de vue et qui dénonce un privilège blanc et un racisme ambiant dans la société américaine. Nassim, tu voulais dire un petit mot.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à Danny Rose. Techniquement, c'est le genre de réplique qui m'énerve un peu parce que c'est un peu, je vais être un peu dur, mais c'est un peu une réplique un peu faible. Dans le sens où, il ne faut pas que ces joueurs-là qui soient victimes du racisme restent bloqués dans la position de la victime et qu'ils essaient d'être un peu plus fortes. Dans le sens où Moïse Kean, bon, était un peu plus jeune, mais Blaise Matuidi, par exemple, était sur le terrain et a vécu.
Balotelli.
Non, mais je parle pour le cas de Moïse Kean.
Moïse Kean.
Moïse Kean est un peu jeune, mais Matuidi était plus vieux. C'est l'un des leaders de la Juve. Il aurait dû prendre des décisions fortes en quittant le terrain. Ces joueurs-là doivent arrêter de dire « j'en ai marre du racisme ». Oui, on en a tous marre du racisme, mais il est temps à un moment donné de prendre des décisions fortes en tant que joueur, en tant que victime de ce racisme, et pas juste dire « c'est dommage qu'il y a des abrutis sur le terrain », ça ne suffit pas. Si la fédération, malheureusement, ne prend pas de décisions fortes, à eux de les prendre et de sortir directement du terrain, alors peut-être, très certainement, ils seront sanctionnés, mais au moins, ils auront fait quelque chose de juste en sortant du terrain et en ne cautionnant pas ces cris racistes. Derrière, la fédération, même si elle les sanctionne, Voilà, ils seront pris en porte-à-feu et derrière, ils seront obligés, au fur et à mesure, de prendre une décision forte contre le racisme. Parce que là, ça reste des déclarations, ça reste des paroles dans le vent. Et c'est pas ça qui fera avancer les choses. Ce qui fera avancer les choses, c'est les actes. Et les actes, c'est dès qu'il y a des cris racistes, ces joueurs-là doivent quitter le terrain aussitôt que possible. Et ce qui serait encore plus fort, ce serait que des joueurs qui ne soient pas forcément noirs quittent le terrain avec
justement,
eux.
Justement, leurs coéquipiers, noirs, blancs, bleus, jaunes ou roses, quittent le terrain. On en a déjà parlé ici. Effectivement, c'est un débat qu'on a déjà eu. Il faut des actes forts. Et je suis entièrement, mais à la 100 000% d'accord avec Nassim. Tant qu'on reste au niveau de la parole, les paroles, elles s'envolent, ça n'arrête pas. Mais la fédération ne pourra pas sanctionner un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Quand il y a 10 joueurs qui vont quitter le terrain à la suite, et ben au bout d'un moment, je pense qu'elle va se poser des questions parce qu'on ne pourra pas sanctionner tous les joueurs qui quitteront, pour des bonnes raisons, le terrain.
Je suis d'accord, ça peut être une solution, mais au-delà de, évidemment, dénoncer... évidemment, ils dénoncent un racisme. Mais tous, ils en viennent aussi à la même conclusion, c'est qu'il n'y a pas de mesure forte qui permet d'empêcher ce racisme et empêcher cette
Pourquoi il n'y a pas de mesure, vous
proposez quelque chose, c'est intéressant. Mais encore une fois, ça doit... Les sportifs qui dénoncent un racisme, certains, c'est le cas de Danny Rose qui justement dit, j'aimerais être à la retraite plus tôt. D'autres, ça leur passe au-dessus. Donc évidemment, chacun a une perception différente. Et dans ce sens, ils en reviennent à la même conclusion.
Non, mais techniquement,
il n'y a pas de proposition forte de la part des fédérations et des.
Techniquement, prenons le cas d'Italie, c'est quoi le racisme actuellement? C'est juste une insulte que tu balances sur le terrain pour déstabiliser l'adversaire. Il n'y a aucune différence entre donner une insulte comme il peut en avoir des millions dans un match de foot et une insulte raciste. Elle est là, il est là le problème justement. Et comme il n'y a pas de mesure forte prise par les joueurs, parce que c'est les joueurs qui sont en première ligne de ce problème-là, la fédération se dit bon, c'est pas si grave que ça, on va laisser couler, et puis même si on a d'autres, ça restera des incidents isolés. Sauf que c'est pas des incidents isolés, ça reste des problèmes majeurs de notre société et du football actuel. Ça reste une maladie du football. L'Angleterre, face au hooliganisme, ils sont pas juste dit oh, c'est juste deux, trois pecnos qui se bagarrent à côté du stade. Non, ils ont pris des décisions fortes, et depuis, on entend très très peu parler du hooliganisme en Angleterre. C'est ce que l'Italie doit faire et d'autres pays doivent faire aussi.
Donc pourquoi ça doit venir évidemment des États, des gouvernements,
des institutions,
des joueurs aussi, mais surtout des joueurs. D'abord des joueurs parce que c'est pas aux joueurs d'attendre. On va attendre qu'ils agissent à notre place. Non, vous subissez le joueur, vous subissez le racisme. Agissez vous-même. Si vous voyez que personne n'agit pour vous, n'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Faites-le vous-même. Même si vous faites sanctionner, faites ce qui vous semble juste.
Ok, et Mamadou, t'as un petit truc à redire par rapport à ce que on est
sur la même autoroute avec Nassim, on est dans la même voiture et on avance à la même vitesse. Je l'ai toujours dit ici, j'ai toujours dit que je suis pour des actes radicaux. Radicaux dans le sens où à un moment donné, il faut quitter le terrain. Et alors le souci, bien sûr, on parle de sanctions et ça va être sanctionné. Mais je suis persuadé que quand on va quitter le terrain une dizaine de fois, une vingtaine de fois, crois-moi que l'œil qu'on va jeter sur l'institution du championnat qui gère ce type de choses et qui ne fait rien, ils vont se poser des questions. Mais à un moment donné, il faut enclencher un mouvement. Les joueurs sont en première ligne pour le faire.
Il faut qu'il y ait le premier joueur qui ait cette idée, qui le fasse, et derrière, ça suivra.
Ah, mais j'en suis sûr et certain.
C'est juste ça, en fait.
En tout cas, tu parlais de Matuidi tout à l'heure, évidemment. Matuidi, il a réclamé récemment des décisions fortes contre le racisme en appelant les instances à prononcer des sanctions. Il fait partie de ces personnes-là, évidemment, qui sont, ces dernières semaines, mis en avant pour dénoncer le racisme.
Il me semble que Matuidi, il a dit qu'il sortirait du terrain, je crois, non?
Il l'a laissé plus ou moins entendre.
Ça reste des paroles.
On avait même eu Carlo Ancelotti, qui avait décidé aussi, qui dit que la prochaine fois on sortira du terrain suite aux incidents qui avaient touché Kalidou Koulibaly. Mais maintenant, ce sont des paroles. J'aimerais bien, moi, voir un entraîneur qui dit à son équipe entière, allez hop, tout le monde au vestiaire, ou un joueur qui prend la décision de partir et que deux, trois de ses coéquipiers le suivent. Là, franchement, c'est impossible. Je ne peux pas imaginer qu'après ça, il ne puisse pas y avoir quelque chose. Mais il faut avoir peut-être le courage de le faire. Alors, je le dis aussi, moi, je le dis ici, assis autour de la table. Mais je pense que c'est la seule manière de taper très fort sur un gros.
De sortir du terrain.
Ah oui, oui. Le terrain, c'est la seule chose. C'est la seule chose parce que tout le monde est. Le terrain, tu vas toucher le match, le résultat du match, le résultat sur la journée en cours, sur le championnat, et il y a peut-être des titres qui vont jouer.
On va pas se casser la tête, et puis ça influe sur le business.
Mais quand je dis sur le business. business.
Ça fait sur le business. Et l'UEFA, la FIFA, les championnats, ils réagiront que si ça porte atteinte sur le business, malheureusement.
Mais bien sûr. Mais de toute façon, quand on parle de tout cet enchaînement de choses, c'est pour finir sur le business. Parce qu'il y a les droits télé, les matchs qu'on met à cette heure-là parce qu'il y a tel partenaire qui met de l'argent. Bien sûr, c'est le business qui est touché au fond. Mais c'est la seule manière d'effectivement de faire bouger les choses.
Loïc Caudron, rapidement, une petite réaction. Justement, je rappelle que vous êtes fondateur, président de l'association France Football Détection. Évidemment, on y reviendra dans quelques instants. Un peu plus en détail, vous êtes d'accord avec l'analyse de Nassim et de Mamadou ?
Ouais, je suis d'accord. Après, les institutions, elles doivent aussi elles-mêmes prendre les choses en main. Faut pas non plus qu'elles aient que ce soit les joueurs qui a tout fait.
Faut les bousculer. Voilà. Faut aller les piquer.
Et après, c'est sûr que si on les pique et que si par exemple il y a des matchs qui sont reportés à cause de ça et d'autres choses comme ça, ça touchera au portefeuille. Et à ce moment-là, c'est vrai que là, je pense qu'ils commenceront à parler.
Je pense que s'il y a une chose qui les fait bouger, c'est bien l'argent. Ça, c'est sûr et certain que là, ils vont pas.
On aura l'occasion d'en reparler puisque c'est pas forcément le seul Kyle Korver à s'être exprimé sur justement le racisme dans le sport. Restez connectés sur BeurFM, on se retrouve dans quelques instants avec Loïc Caudron, fondateur, président de France Football Détection, pour une interview un peu plus longue. On parlera également de la Ligue des Champions, de Liverpool, Porto, Ajax Amsterdam, Juventus de Turin et enfin le match ce soir, Manchester United, Barcelone. À tout de suite sur BeurFM.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Offre réservée aux membres de la famille.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
On est de retour sur Beurre FM, chers auditeurs, chères auditrices, sur Time Sport du lundi au vendredi de 18h à 19h. Je le rappelle, avec les consultants Nassim Bourras, Mamadou Lamine Mané et notre invité, voilà, Loïc Caudron, aujourd'hui fondateur et président de l'association France Football Détection. Bonjour Loïc. Rebonjour. On va parler un peu plus de cette association France Football Détection dans l'incroyable mais vrai. C'est tout de suite.
Time Sport.
Et donc du coup, en quoi consistent les objectifs de votre structure, donc l'association France Football Détection?
Pour faire simple et précis, ça consiste à détecter des joueurs. En gros, on organise des détections à travers toute la France. Donc les joueurs s'inscrivent directement sur notre site internet. Ensuite, on a une équipe chargée du recrutement interne. Ils s'occupent de sélectionner les joueurs. Ensuite, on fait une partie phase finale où là, on invite les recruteurs et les agents afin d'aider ces jeunes-là à trouver un club.
Et donc du coup, c'est sur toute la France, c'est ça?
Ouais,
ou que sur l'Île-de-France?
Non, sur toute la France justement. Moi, à la base, en fait, je suis originaire de Normandie. C'est un endroit où il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de quartiers, il y a beaucoup de bons joueurs. Et malheureusement, les recruteurs, ils sont pas autant présents qu'en Île-de-France, ce qui est normal. Mais du coup, ça laisse, pour les jeunes, ça laisse un goût d'inachevé. Parce que des fois, si vous allez même au fin fond de la Creuse, vous allez trouver des bons joueurs. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément de recruteurs présents là-bas. Donc ça aide pas pour le recrutement.
Parlons un peu plus des détections. Ces détections, elles sont ouvertes à quelle tranche d'âge et où et quand les organisez-vous?
Elles sont ouvertes de 15 à 24 ans. Donc on les organise à peu près sur toute l'année. Donc là, on en a fait une le 30 mars à Châteauroux. Il y en a une qui vient le 8 juin à Marseille. Il y en a une le 15 juin à Strasbourg. Le 26 juin à Toulouse. Et après, mi-juillet, on devrait en avoir une dans le Nord. Ensuite, bon, on va en avoir quelques autres dates encore. Mais ensuite, donc, on va sélectionner les meilleurs de ceux-là à chaque fois. Et on va faire le tournoi final pour pouvoir inviter à ce moment-là les recruteurs et les agents.
Et donc celle de Châteauroux, elle a eu quel débouché par exemple la dernière?
Celle de Châteauroux, donc là elle a eu lieu le 30 mars. Il y a eu plusieurs recruteurs et agents qui étaient présents. À savoir que c'était notre première. Donc à part le recruteur du stade Rennais qui a accepté qu'on officialise sa présence, il y a eu pas mal de recruteurs présents mais qui ont préféré ne pas communiquer sur leur présence puisqu'ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Aujourd'hui, ils ont vu ce que ça a donné. Ils ont vu que vraiment on a mis tout en œuvre. Il y avait des drones, on a fait un film, on a vraiment mis tout en œuvre et ils ont vu que on a tout fait au mieux pour les joueurs. Et maintenant on est contacté par des clubs qui souhaitent participer et qui souhaitent intégrer même notre staff afin d'être au plus près de la détection des joueurs.
Et donc du coup c'est une belle transition.
Du coup en fait ce que ça a donné de base, ça ne doit rien donner de base parce que c'est une présélection. Mais finalement il y a quand même deux joueurs qui sont sortis et qui vont faire un essai demain. Donc, et après-demain, ils ont deux jours pour faire un essai au FC Tours, donc tout compris pour intégrer le centre de formation. Après, nous, de base, en fait, comme je vous ai dit, le 30 mars, c'était juste une présélection pour la détection finale. Mais les recruteurs, ils s'intéressent déjà à nos présélections, donc c'est tout bénef, on va dire. C'est encore mieux.
Donc, c'est de bon augure hein, pour l'association France Football Détection. Quels sont, justement, est-ce que vous avez est-ce que vous rentrez en concurrence avec les centres de formation?
Non. Justement, la même question elle avait été posée dans une autre radio. Et non, vraiment, pas du tout. Pas du tout, parce que nous, en fait, déjà, on vise de 15 à 24 ans. Et les centres de formation, en général, c'est un petit peu plus jeune. Et nous, c'est vraiment pour les joueurs qui sont passés entre les mailles du filet. Et bien au contraire, donc il y a des joueurs qui, après, intègrent des centres de formation. Donc nous, on ne forme personne, si vous voulez. On détecte juste des talents. Et après, on les oriente vers les structures capables de les accueillir.
Est-ce que vous engagez des frais, quand même, pour...
Ouais, énormément. Énormément, c'est-à-dire que déjà, parmi les personnes de notre équipe, ce sont que des personnes qui sont actuellement en poste dans des clubs pro ou semi-pro. C'est-à-dire que ce sont des éducateurs de manière générale, où après on a également le recruteur du stade brestois qui travaille avec nous. Et ces personnes-là, en fait, on leur paye le transport et on leur paye le dédommagement de leur journée qu'ils perdent avec leur club, en fait. Et donc il y a ces frais-là, on met énormément de frais au niveau de la communication. Donc ne serait-ce que sur la publicité sponsorisée sur Facebook, sur le site internet et également sur la réservation des infrastructures. Parce qu'on a fait par exemple là le 30 mars, c'était au centre technique régional de Châteauroux. C'est là où se réunissent le pôle espoir du 19. Donc c'est des installations magnifiques, donc forcément ça a un coût.
En parlant de communication, c'est quelles sont vos relations avec les clubs français? S'il y en a, forcément, il y a plus d'attaches avec certaines personnes, avec certains clubs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Ouais, après c'est le début. C'est le début, donc il y a certains clubs avec qui on travaille directement, comme avec Brest par exemple, où on a un recruteur qui fait partie de notre staff. Après, voilà, on n'a pas forcément plus d'affinité. Nous aujourd'hui, on se pose vraiment en toute neutralité afin de donner le plus de chances possible aux joueurs. Donc on privilégie pas un club plus qu'un autre, en fait. On va travailler dans le but de donner le plus de chances possible aux joueurs. On est juste une plateforme, en gros, de mise en relation, si on peut dire ça comme ça.
Mais je suis sûr que sur le marché, il existe déjà des associations un peu comme France Football Détection.
Il y a des associations, voilà, qui travaillent...
Dans,
oui, il y a des associations, en fait, qui travaillent déjà dans la détection de joueurs. Nous, le gros avantage qu'on a, c'est que dans notre réseau, dans notre équipe de France Football Détection, les personnes qui y travaillent, ce sont que des personnes qui sont déjà en poste dans des clubs pro et semi-pro. Là, par exemple, récemment, on a été contacté par un éducateur de l'Aix-Béziers qui souhaite faire partie donc de notre staff. Il a été le bienvenu parce qu'en fait, ça élargit encore un peu plus. Lui, il est en contact directement avec l'Aix-Béziers qui est un club de Ligue 2. Donc, ça élargit directement le champ pour les joueurs. Contrairement à, par exemple, je pourrais venir moi tout seul, je fais les détections. Et voilà, après je m'occupe de trouver un club, mais là c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là c'est vraiment une équipe qui travaille ensemble, et si les deux joueurs de demain qui vont FC Tours, ils y sont, c'est en partie grâce à notre équipe qui a des contacts très proches avec le FC Tours.
Nassim.
Vous avez parlé de drones tout à l'heure. Je voulais savoir, à l'heure des nouvelles technologies, quelles sont les nouvelles technologies que vous mettez en place pour détecter les joueurs et pour mieux gérer cette détection?
Les nouvelles technologies, donc là le drone et tout ça, c'était vraiment pour notre première édition, ça serait réitéré, mais c'était pour faire un film sur l'événement, en fait. C'était pas forcément pour un match. D'accord. Mais ce qu'on est en train de mettre en place, en fait, ce sont avec un partenariat ce serait de filmer tous les matchs, en fait, afin que l'on puisse faire des montages vidéo pour les joueurs qui sont susceptibles d'être pris par des clubs. Parce que par exemple, on travaille avec des agents, ils nous ont dit c'est dommage, parce que en gros ils représentent Norwich. C'est un agent qui représente Norwich. Il nous a dit c'est dommage, si on aurait la vidéo, je lui aurais envoyé directement.
Et voilà,
là maintenant, Norwich, en gros, ils sont obligés de se déplacer pour venir à la détection finale et voir le joueur. Si on aurait la vidéo, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, c'est pour ça qu'on travaille pour la mettre en place sur les prochaines éditions.
Et une deuxième question. Dans l'hypothèse où un joueur est pris, est-ce que derrière, France Football Détection suit le joueur, continue à suivre le joueur, ne serait-ce que pour donner des conseils lié à sa gestion de carrière, ou si juste il y a un suivi du joueur classique?
Oui, après nous on est toujours là, on est toujours présent. Nous, c'est une fierté pour nous quand un joueur il réussit. Après nous, en soi, ce qu'on précise bien, c'est qu'on n'est pas des agents, on n'a pas le rôle d'agent, on cherche pas à voilà, faire ce travail-là dans l'après. Nous, voilà, après, s'ils ont besoin de conseils, on peut les conseiller, on peut les orienter vers des personnes aptes à ça, mais nous, c'est vraiment pas notre domaine de gérer la carrière d'après, mais bien évidemment, on est là aussi pour les conseiller.
C'est la détection, en fait.
Ouais, nous, c'est vraiment la détection.
D'accord.
Et c'est ce qui est apprécié par les clubs et les agents, que nous, voilà, on se mêle pas dans leurs histoires après, c'est-à-dire que si les joueurs nous demandent conseil, on leur donne notre conseil, notre avis personnel, mais après, c'est pas notre métier en soi de gérer leur carrière après.
Mamadou, rapidement une question.
Oui, Loïc. En fait, est-ce que, parce que on parlait de cette relation, et je vais rebondir un peu sur la question de Nassim. La première, est-ce que les frais, vous prenez en charge les frais des personnes qui viennent pour structurer votre prestation, entre guillemets,
ouais.
Mais la détection, elle est gratuite pour les joueurs qui viennent?
Non, la détection, elle est payante.
Ah, elle est payante.
Elle est payante, sinon ça serait impossible, en fait.
Voilà, parce que moi, en fait, j'étais un peu sur le modèle économique, comment vous fonctionnez. Donc, quels sont les frais liés à cette détection? Elle n'est pas ouverte à tout le monde, en fait. Il y a une forme de bulletin d'inscription.
Ouais, en fait, il faut s'inscrire directement sur notre site internet. Et le règlement, il se fait en ligne directement.
D'accord.
Donc, le règlement, il est de 89 euros. Vous réglez directement sur notre site internet et nous, ça nous permet après d'évaluer le nombre de personnes qui seront présentes et de mettre l'effectif en conséquent, ainsi de la réservation des infrastructures.
On va finir avec une petite question. Tu voulais rebondir
Non, c'était plus ou moins ça. Alors, tout ça, c'est encadré. Est-ce que c'est encadré juridiquement? Vous avez des contrats? Vous avez. Oui. Savoir comment, quelle est la structure? Comment le joueur, quand il s'engage, en termes de responsabilité, comment ça peut se passer pour vous, par exemple?
Ouais, voilà. Donc après, c'est-à-dire que nous, lorsque la personne elle s'inscrit directement sur notre site internet et après donc il y a toutes les chartes et les clauses qui sont dans les conditions générales de vente pour nous protéger nous et protéger les joueurs en cas d'accident. Après derrière il y a toutes les assurances et tout ça qui permettent cela en fait.
D'accord.
Rapidement une dernière question. Est-ce que vous travaillez pour le moment avec des structures à l'étranger?
On a été contacté par Norwich, ouais. Enfin, un agent de Norwich, un agent qui travaille avec Norwich, et qui nous ont demandé d'envoyer une invitation pour les prochaines détections pour le centre de formation de Norwich. Après, pour l'instant, on n'est pas encore très très développé sur l'étranger, mais on se développe très très bien en France.
En tout cas, il y a une phase développement évidemment qui accompagnera tout le travail que vous effectuez. Merci Loïc Caudron. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de France Football Détection. Et d'ailleurs, en parlant du football, on continue d'en parler. Cette fois-ci avec la Ligue des Champions. C'est l'heure de la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et la victoire, c'est celle de Liverpool face à Porto, puisque Liverpool a assuré hier contre le FC Porto en quart de finale aller de la Ligue des Champions à Anfield Road. Les Reds qui se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Naby Keita et de Roberto Firmino, sans trembler évidemment. Les hommes de club que confirment par leur régularité, sont-ils en passe d'atteindre la maturité au niveau européen, Mamadou?
Klopp est arrivé sur ce projet. Nassim va me dire la date exacte. Ça fait Klopp.
Je ne pourrais pas te dire la date exacte.
Non, c'est la date exacte, mais ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'il est à Liverpool.
Ça fait 3-4 ans qu'il est là. Oui.
Force est de constater qu'il bosse bien. Il bosse bien. Liverpool est devenu une équipe attractive. On parle toujours du jeu, en fait, la patte. Comme on parle de la patte de Guardiola, on parle de la patte de Klopp. C'est un entraîneur charismatique. Il y a vraiment eu un avant et un après Klopp par rapport à l'état dans lequel il avait trouvé le club.
En 2015. Donc,
2015, voilà. Je savais bien que tu allais me trouver ça, spécialiste du football allemand. Et et je pense que si on parle de maturité européenne, oui, ils vont quasiment en passe de rentrer encore une fois dans le dernier carré, 2 années de suite. Quand on arrive à faire, ils n'y sont pas encore, on verra le match retour, mais quand on voit l'impression en tout cas qu'ils donnent sur ce match aller. C'est une impression d'une équipe qui a l'habitude des joutes européennes et qui, même malgré une phase de poule qui était un peu compliquée à un moment donné, et on voit qu'aujourd'hui, ils arrivent à se placer encore quasiment une deuxième fois d'affilée dans le dernier carré.
Nassim.
Ce qu'est en train de faire Jürgen Klopp au sein de cette équipe des Reds est fantastique. Fantastique parce que c'était une équipe qui était qualifiée de loser.
Exact.
Avant son arrivée, ouais. Qui loupait de peu la première ligue. Et qui là est actuellement en passe de pouvoir remporter à la fois la Première Ligue et la Ligue des Champions, sachant que l'année dernière c'était déjà passé à peu de choses. On va dire que voilà, le gardien de but ne les avait pas trop aidés. Derrière, ils ont fait les bons recrutements. Ils n'ont pas forcément recruté pour 500 millions d'euros, mais ils ont recruté...
gardé leurs joueurs.
Et surtout, voilà, j'allais y venir.
Excuse-moi.
Ils ont recruté les joueurs qu'il fallait. Et ils ont su garder les joueurs qui, parce qu'ils pouvaient tout perdre à la fin de leur, leur confrontation contre le Real Madrid. Les joueurs auraient pu se lasser et dire, voilà, on va pas gagner la Ligue des Champions avec ce club-là, il vaut mieux partir. Mohamed Salah, Sadio Mané était convoité par de grands clubs. Jürgen Klopp a su avoir le discours qu'il fallait pour les garder en place. Il les a gardés. Et je vois pas pourquoi Liverpool, qui arrive en finale la saison dernière, va s'effondrer cette saison. Ils sont en passe d'arriver en demi-finale et ils sont favoris, enfin ils font partie des favoris pour remporter la Ligue des Champions cette année.
En tout cas, ils ont pris le bon chemin, ils ont un pied en demi-finale, l'équipe voilà des Reds de Liverpool. Un petit mot sur cette rencontre, est-ce que tu l'as vu hier Loïc?
Non, j'ai pas regardé le match, mais après c'est vrai que ce que fait en ce moment l'entraîneur, c'est magique, parce que quand on voit quand il est arrivé dans quel état était le club, voir ce qu'il a fait à l'heure actuelle, c'est très très bien. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il suffit pas de dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir remporter, on va pas dire remporter la Ligue des Champions, mais arriver dans les derniers carrés. C'est que il a réussi à construire un groupe. En plus de ça, il a réussi à le garder. Et donc voilà, c'est très très bien et ça montre la grande expérience de l'homme.
Parce que si ce n'est le recrutement de Van Dijk et de Naby Keita, c'est pas des recrutements à 100 millions d'euros qu'il y a eu à Liverpool ces dernières saisons.
En tout cas, parmi les possible qualifié, évidemment, voilà, il y a Liverpool qui a un pied, pas les deux pieds évidemment, en demi-finale, seulement un seul pour le moment, et Tottenham qui s'est imposé 1-0 face à Manchester City, donc évidemment, voilà, un petit mot sur ce match logiquement décroché, qui a logiquement, enfin, il y a pas de surprise,
non,
hein, dans
y a
ce,
pas
dans
de
ce
surprise,
match.
Manchester a un peu fait une mauvaise première mi-temps. Ils se sont un peu repris en deuxième, en accélérant un peu plus. Mais Tottenham avait un plan de jeu. Il a respecté son plan de jeu avec un milieu de terrain qui avait été densifié. Et derrière, il y a une très bonne prestation de Moussa Sissoko, qui est lui aussi comme un peu Blaise Matuidi. C'est-à-dire qu'on le met toujours sur le banc de touche, voire dans les tribunes, et puis on le retrouve toujours titulaire. Enfin, vraiment, en termes de ténacité, on peut ne pas aimer le style du joueur, mais en termes de mental, c'est costaud. Mais Tottenham avait un plan de jeu, il l'a respecté, et je pense que la victoire, entre guillemets, elle est méritée, elle est logique sur l'ensemble du match. Voilà, donc je pense qu'ils sont arrivés au résultat qu'ils espéraient, enfin que Pochettino avait mis en place, et je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient.
Nassim,
un match assez spécial. Je suis pas forcément d'accord. C'est une petite surprise quand même. Manchester City, déjà de par son 11 de départ, je comprends pas pourquoi Leroy Sané et Kevin De Bruyne ne sont pas alignés dès le départ. En fait, ils arrivent à la toute fin du match. C'est quelque chose que je comprends toujours pas. D'ailleurs, je comprends toujours pas l'entêtement de Pep Guardiola avec cette manie de la possession. Ça fonctionnait très bien avec le Barça de Messi, mais depuis qu'il est arrivé au Bayern et maintenant Manchester City, ça devient très compliqué. Il n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions, il est limité, et derrière, il faut souligner la très belle défense de Liverpool qui fait une Ligue des Champions fantastique, notamment avec la défense centrale Alderweireld et Vertonghen, et Hugo Lloris qui arrête un pénalty.
Oui, Hugo Lloris, c'est effectivement.
On en reparle dans quelques instants, chers consultants de la Ligue des Champions, puisqu'évidemment, voilà, on reviendra sur cette rencontre, voilà, entre Tottenham et Manchester City, Manchester United, Barcelone et l'Ajax Amsterdam, la Juventus. C'est parti pour Beurre FM.
Tu l'as dit un peu dans le désordre.
Bon, allez, à
18h, 19h. Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec les consultants Nassim Bourras, Mamadou Lamine Mané et notre invité Loïc Caudron, avec qui on a parlé évidemment de son association France Football Détection. On était en train de parler de la Ligue des Champions et notamment de la victoire de Tottenham 1-0 face à Manchester City. On va continuer d'en parler, cette fois-ci dans le duel.
Time Sport. Le duel.
Et donc du coup, j'étais un peu interrompu tout à l'heure. Nassim, t'es en train de nous dire quelque chose sur cette équipe de Tottenham qui s'est imposée hier face à Manchester City.
Oui, c'est une très belle équipe qui est proposée ici. Surtout en défense. La défense ne paye pas forcément de mine avec les noms qu'on a. Kieran Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Danny Rose. C'est pas la meilleure défense d'Europe en termes de noms. Mais c'est super complémentaire, c'est très intéressant et c'est très solide. Il y a une vraie force d'âme dans cette défense. Et on la voit, ça encaisse peu de buts en Champions League. Et derrière, il y a Hugo Lloris qui joue vraiment son rôle de leader. On le voit très souvent en France via les Bleus. Et on se dit comme quoi, c'est pas forcément un top gardien de but. Mais il le montre, c'est un gardien qui aurait pu, à mon sens, signer dans les plus grands clubs européens, qui a préféré signer pour un projet à Tottenham. La preuve que ça fonctionne plutôt bien, parce qu'ils sont réguliers en Ligue des Champions et qu'ils avancent de mieux en mieux. Ils ont même une possibilité maintenant d'arriver en demi-finale. Donc vraiment, je pense que la clé du succès chez les Spurs, c'est la défense. Je minimise pas l'importance de l'attaque, notamment de Heung-min Son qui me laisse sans voix parce qu'il a vraiment progressé depuis son départ de Leverkusen quand il joue en Bundesliga. Il y a aussi Eriksen. Après, on va revenir aussi sur Harry Kane qui s'est blessé malheureusement. Je sais pas si c'est fin de saison ou pas pour lui. J'espère qu'il pourra revenir pour donner un peu de force à cette équipe des Spurs. Après, pour City, voilà, je pense vraiment que c'est la fin du jeu de possession, en tout cas du jeu de possession pur. Il faut vraiment que Guardiola puisse évoluer sa tactique parce que ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Il l'a remporté la Ligue des Champions avec le Barça. Il la remportera plus de cette même manière.
Est-ce que tu vois Manchester City renverser un peu la tendance au match retour?
Bah si, c'est pour mettre Leroy Sané et De Bruyne sur le banc des remplaçants et qui continue à s'entêter avec un jeu de possession stérile. Non, je vois pas Tottenham se faire éliminer par ce City là.
Si vous nous rejoignez sur Beurre FM, on parle de la Ligue des Champions et je rappelle que vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. On continue de parler de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci avec les matchs de ce soir, évidemment, Ajax-Juventus à 21h, Manchester United-Barcelone. Loïc, tu seras devant quel match ce soir ?
Ajax-Juventus, je pense.
Pourquoi ? Pour Ronaldo ? Parce que c'est beau aussi, Manchester United-Barcelone.
Là, quand même, l'Ajax, ils viennent de faire quelque chose de grand en éliminant le Real. Je crois que, voilà, à l'heure actuelle, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et donc, c'est une équipe qu'il faut regarder de très près parce que pour voir ce qu'elle va donner, finalement, si elle va confirmer ou pas. Et de l'autre côté, il y a la Juve. Donc, avec Ronaldo... Et derrière, en plus, il y a un petit peu les petites tensions qu'il y a en ce moment dans le vestiaire avec les problèmes de racisme. Donc, on va voir ce que ça va donner.
En tout cas, t'es plutôt confiant pour la Juve, pour l'Ajax, ou tu te prononces pas ?
Franchement, c'est compliqué là.
Ouais. Bon, c'est compliqué. D'accord.
Franchement, c'est pas évident.
C'est pas évident. Mamadou, évidemment, l'entraîneur de la Juventus, il est très méfiant avant le déplacement de son équipe sur la pelouse de l'Ajax. Quel plan la Juve peut-elle opposer à cette équipe d'un enthousiasme débordant ?
Il va nous faire un plan à la Massimiliano Allegri. Je pense qu'il va la jouer à l'expérience. Enfin, c'est une équipe. Il sait qu'en face il a de la fougue. Il sait que l'Ajax à domicile en plus. Je pense que les joueurs sont gonflés de confiance. On va pas taper le Real à Bernabéu 4-1 en mettant une leçon quand même aux yeux de toute l'Europe. Là, ils vont jouer. Je pense que l'Ajax va jouer sans pression et au contraire. Va vouloir encore se taper, entre guillemets, excuse-moi, un gros. Donc Allegri, c'est qu'ils peuvent passer à la moulinette. Donc il va durcir le jeu comme il sait le faire. C'est à l'italienne. C'est peut-être pas du Catenaccio, il l'a un peu oublié. Mais durcir le jeu, faire sortir ses cadres d'expérience, des joueurs, il y a du Matuidi, il y a du Ronaldo, c'est quand même des joueurs qui savent gérer tant fort, tant faible. Donc je pense qu'il va essayer de laisser un petit peu la fougue s'exprimer et essayer de la canaliser, comme joue la Juve à sa main. Et la Juve dans ce schéma-là, est aussi très très dangereuse. Alors, c'est très très dangereuse.
En tout cas, ça pose une question. Est-ce que l'Ajax est-elle en mesure de malmener l'équipe qui semble la plus aguerrie en termes d'agressivité ? Je parle évidemment de la Juventus de Turin. Nassim ?
Oui, totalement. Totalement. Ils ont réussi à éliminer de façon magistrale le triple champion du titre, le Real Madrid. Je pense que l'Ajax peut se faire un chemin. Je le dis depuis le début de la compétition, c'est un outsider à prendre très au sérieux. Pas forcément un favori, mais qui se déclare de plus en plus en tant que favori. C'est un très bon club qui arrive à maturité maintenant. Il ne faut pas oublier que la plupart de ces joueurs-là vont quitter le club à la fin de la saison. C'est déjà fait pour De Jong, ça va être très certainement fait aussi pour De Ligt. Ces joueurs-là ont à cœur de vouloir terminer d'une très belle façon, c'est-à-dire en remportant la coupe aux grandes oreilles à la fin de la saison. Donc ça laisse présager d'un très bon match en tout cas. Après en face, le souci c'est qu'il y a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nous a montré qu'il est capable de tout et surtout des meilleurs matchs lors de ces phases éliminatoires. Parce que ce joueur-là est imprévisible. Il peut tout faire sur un terrain et malgré son âge, il peut encore nous claquer un retourné acrobatique à 3 mètres du sol. Donc voilà, ça reste un joueur fantastique. Et il n'y aura pas forcément de plan anti-Ronaldo, parce qu'on ne peut pas faire de plan anti-Ronaldo comme on ne peut pas faire de plan anti-Messi. Donc voilà, ça reste d'être un match très équilibré et surtout très intéressant à suivre. Et moi, je regarde quand même d'un œil assez heureux cet Ajax-là, parce que je les suivais déjà depuis leur épopée en Europa League, déjà contre Lyon, où ils avaient réussi à passer, arriver en finale d'Europa League contre Manchester United, malheureusement perdu derrière. Donc voilà, maintenant ils sont dans leur lancée. C'est la fin d'un cycle pour eux. La plupart des joueurs vont partir à la fin de saison et ce serait beau qu'ils puissent reporter un titre à la fin. Pourquoi pas ?
En tout cas, ce match entre l'Ajax à Amsterdam et la Juventus de Turin ce soir, c'est un peu, y a un peu un parfum de la finale de Ligue des Champions en 1996. Voilà, ce match qui fut marqué par une véritable opposition de style entre la Juve de Marcelo Lippi et l'Ajax de Louis van Gaal. Est-ce qu'on peut assister évidemment à un suspense prolongé avec une séance de tir au but finalement, Loïc ?
Ouais, c'est pas impossible. Parce que la Juve, ils vont jouer à l'italienne, comme il a dit le collègue tout à l'heure, c'est que c'est vraiment pas impossible.
Déjà, il n'y aura pas de tir au but
ce soir.
Je te charrie.
Mais je pense que ce qui peut être intéressant sur ce match-là, c'est que le résultat. Bon, c'est valable pour tous les matchs, tu me diras. Mais celui-là, plus spécifiquement, le résultat du match aller ne préjugera de rien du résultat du match retour. Parce que je pense que même si, par exemple, l'Ajax chutait chez lui, pour une raison ou pour une autre, ils sont capables d'aller donner la leçon à la Juve derrière. Parce qu'ils sont un peu, c'est un côté un peu inconscient ou autre. C'est pas le côté match à la maison, match retour, qui va jouer sur le résultat final du match. Et la Juve est capable aussi bien de faire un gros match à l'extérieur, comme elle peut le faire à domicile. Donc là, on est vraiment avec deux oppositions de cible, mais avec des équipes qui peuvent faire l'exploit à domicile comme à l'extérieur.
Et puis après avoir éliminé le Real, évidemment, l'Ajax n'est plus forcément un outsider comme au début de la compétition.
Ils sont sortis du bois.
Voilà, en tout cas il y a une autre rencontre aussi ce soir, voilà, c'est même si vous n'allez pas forcément être devant celle-là parce qu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo, c'est Manchester United Barcelone, voilà, et on en parle tout de suite avec le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, donc Manchester United qui peut se méfier, évidemment. Lionel Messi est diabolique face aux Anglais. Longtemps muet face aux équipes d'outre-Manche, Lionel Messi se régale désormais lorsqu'il les affronte. Les défenses anglaises lui ont vaillamment résisté au début. Il aura en effet fallu à Lionel Messi 11 rencontres face à des clubs d'outre-Manche entre 2006 et 2009 pour mettre fin à ce qui commençait à ressembler à une malédiction. Au-delà du cas de la Pulga, comment justement les Red Devils semble armé pour résister au collectif du leader de la Liga, Nassim ?
Moi, je vois très certainement pas le Barça avoir besoin de Messi pour remporter cette double confrontation, comme le PSG n'a pas eu besoin de Neymar pour quasiment arracher une qualification contre Manchester United. Voilà, on sait ce qui s'est passé derrière. Non, le Barça a un collectif suffisamment huilé, avec des joueurs qui ont un talent certain. Face à Manchester United, notamment face à la défense de Manchester United, ça devrait le faire pour le Barça. Encore une fois, la présence de Manchester United en quart de finale, elle me laisse très perplexe, excusez-moi, parce que c'est pas un effectif qui normalement doit atteindre ce niveau de la compétition.
C'est pas programmé pour l'atteindre cette année, en tout cas.
Parce que je pense notamment à la défense. Les compétitions, vous les gagnez surtout avec votre défense. Et là, mis à part Derrea au cage, la défense de United ne fait pas rêver, elle n'est pas extraordinaire. En témoigne leur saison en Première Ligue qui n'est pas franchement incroyable. Non, c'est... Il y a des bons joueurs dans ce collectif-là. Je ne dis pas que Manchester United est une équipe à deux balles qui ne va rien faire. Mais ce n'est certainement pas une équipe qui peut battre le Barça actuel, non.
Le Barça de Messi, comme je le disais évidemment au début, qui est Messi qui a remporté deux de ses quatre trophées en Ligue des Champions contre Manchester United, marquant à chacune des finales 2009 et 2011.
Et c'était pas le même Manchester United en plus.
Oui, c'était, et en plus c'est pas le même.
Et c'était pas le même.
Il y avait Patrick Evra chez Manchester United.
En tout cas, Messi a marqué Manchester United, on peut le dire comme ça. Loïc, un petit prono, un petit mot sur cette rencontre ce soir.
Non, peut-être un petit 1-0 pour Barça, peut-être.
Un petit 1-0 avec un but de Messi.
Ouais, parce que Messi va tout donner. Messi, il a vu la coupe cette année, je pense.
Ça
commence à lui manquer des coupes, je pense. Donc là, il va tout donner, à mon avis, cette année. Surtout qu'on voit Cristiano Ronaldo, comment il brille de l'autre côté. Alors, il ne va pas laisser sa place comme
ça. Il va lui envoyer un message.
Exactement.
En tout cas, depuis 2011, le Barça n'a pas croisé la route des Red Devils, une équipe qui peine à retrouver son lustre d'antan. Est-ce que tu y crois, ce Manchester United, même si évidemment on a un grand Messi à chaque match contre.
Mais je vais encore rebondir sur ce que disait Nassim. Je pense que le Barça n'a pas besoin de Messi pour, en tout cas en termes
de jeu collectif avec ou sans Messi, le Barça est capable de battre Manchester United. En tout cas, ce Manchester United-là, qui, moi, effectivement, n'est pas calibré et n'était pas prévu pour arriver à ce stade de la compétition. Donc, Nassim l'a dit aussi, cette compétition se gagne avec une bonne défense, avec une défense solide. Et je pense que Manchester United aujourd'hui ne donne pas les gages d'une défense solide. Après, même dans l'animation et dans le jeu, tout peut arriver. Hein.
C'est pas fou, hein.
Moi, c'est pas extraordinaire. Il y a rien de marquant, en fait. Voilà. Quand on regarde, il y a rien qui reste quand tu regardes un match de Manchester United. T'as pas une impression de tiens tel angle de jeu, telle tactique qui te marque. L'équipe, elle est un peu neutre.
On parle pas forcément de beau jeu à la Guardiola, non, beau jeu de possession.
Du tout.
C'était pas ça, le Manchester United de Rio Ferdinand, voilà, et de Van der Sar. C'était un Manchester United solide qui te faisait comprendre que t'allais pas passer chez
Exactement.
Eux. Et avec un stade bouillant, avec des joueurs bouillants. Là, ça montre pas trop ça. On a l'impression de voir des joueurs en doute, des joueurs trop jeunes, une défense pas assez solide. Voilà, c'est l'antithèse d'un Manchester United normal.
Eh ben, on va pouvoir voir ça ce soir, justement. Je rappelle, ce mercredi, il y a deux matchs à suivre. Ajax Amsterdam, Juventus de Turin, Manchester United, Barcelone. Les matchs retour, c'est le 16 et 17 avril. Voilà, avant de passer aux demi-finales. On se retrouve, nous, demain, voilà, 18h, 19h, pour sur Beurre FM et avec les consultants de Timesport. Je vous souhaite une excellente soirée.
Retrouvez Timesport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.